VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 9 août 2023. En direct de Washington, Nanit Talani. Pour commencer, les titres. Au Niger, le régime militaire insensible aux offres de dialogue venues de la région et des États-Unis. En Sierra Leone, 14 militaires et 3 policiers arrêtés pour subversion. Au Sénégal, liberté provisoire pour Pape Aly Niang, un journaliste critique du pouvoir. Plus de 50 migrants originaires d'Afrique subsaharienne interceptés dans l'Atlantique par la marine marocaine. Au Kenya, début aujourd'hui de pourparlers entre gouvernement et opposition après des manifestations meurtrières. Aux États-Unis, le gouverneur Ron DeSantis, principal rival républicain de l'ex-président Trump, limoge sa directrice de campagne. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco, mais pour l'instant, le journal. Au Niger, les auteurs du coup d'État semblent insensibles aux offres de négociations venues d'Afrique de l'Ouest et des États-Unis afin d'éviter une intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. Le point avec Eric Manirakiza.
À l'avant-veille du sommet de la CEDEAO jeudi à Abuja, les militaires au pouvoir à Niamey ont fait savoir qu'ils ne pouvaient pas accueillir une délégation de l'organisation régionale pour des raisons de sécurité. La CEDEAO a menacé d'intervenir militairement pour rétablir le président Mohamed Bazoum. Cette menace sous forme d'un ultimatum de 7 jours n'a pas été exécutée à son expiration dimanche, puis la nomination lundi soir d'un premier ministre civil, Ali Mahaman Lamine Zen, apparaît comme un autre signe de défiance et la première étape vers la désignation d'un gouvernement de transition. Le chef de l'État nigérien, Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, a affirmé hier qu'il préfère une solution par des moyens diplomatiques et pacifiques que tout autre. La numéro 2 de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, s'est rendue à Niamey lundi pour rencontrer les auteurs du putsch, mais elle n'a pas pu voir le général Abdulrahman Tchiani ni le président renversé Mohamed Bazoum assigner à résidence. Un porte-parole du département d'État a dit hier qu'il gardait toujours espoir, tout en restant réaliste quant à la réussite de la diplomatie.
14 militaires sierra-léonais, 3 policiers dont un ancien responsable limogé et 2 civils ont été arrêtés et sont poursuivis pour subversion, tandis que 8 autres personnes sont toujours recherchées, a indiqué mardi le chef de la police lors d'une conférence de presse. Il y a une semaine, la police avait annoncé avoir arrêté plusieurs personnes, dont des officiers de l'armée qui planifiaient, selon elle, de violentes attaques un an après les émeutes meurtrières d'août 2022 qui ont fait plus de 30 morts. Selon la police, les suspects prévoyaient d'utiliser des manifestations pacifiques prévues cette semaine comme prétexte pour déclencher des attaques violentes contre les institutions de l'État et les citoyens pacifiques. Au Sénégal, la justice a ordonné mardi la remise en liberté provisoire du journaliste Pape Aly Niang, critique du pouvoir, et qui était en détention depuis plus d'une semaine pour notamment appel à l'insurrection, a annoncé l'un de ses avocats. Son état de santé, qui était en phase d'atteindre un point irréversible dans la dégradation de son organisme, l'oblige à rester à l'hôpital pour se soigner, a ajouté maître Cyril Clédorly. Pape Aly observait une grève de la faim. Au Soudan, l'armée a intensifié hier mardi ses efforts pour progresser dans Khartoum, donnant lieu à des affrontements parmi les plus violents depuis le début en avril dernier du conflit qui a accentué la crise humanitaire dans le pays. Le point avec John Lindon.
Selon des témoins, l'armée du général Abdel Fattah El-Burhan mène depuis lundi des frappes aériennes et utilise de l'artillerie lourde dans le but de prendre le contrôle d'un pont sur le Nil dont les forces de soutien rapide se servent pour acheminer renforts et munitions depuis 2 villes adjacentes à la capitale, Omdurman et Bari. L'ONG Save the Children, dans un communiqué hier, souligne que des milliers de cadavres se décomposent dans les rues de Khartoum alors que les morgues sont saturées et font face à des coupures de courant. Sur les 89 principaux hôpitaux de la ville, 71 sont hors service et ceux opérationnels sont souvent la cible des pillages. Depuis des mois, les ONG martèlent que le temps presse car les eaux stagnantes de la saison des pluies favorisent les épidémies allant du paludisme au choléra en passant par la dengue. Depuis le début du conflit le 15 avril, tous les cessez-le-feu promis n'ont jamais été respectés.
La marine marocaine a intercepté hier mardi 56 migrants originaires d'Afrique subsaharienne à bord d'une embarcation de fortune au large de Tantane, dans le sud, alors que se multiplient les tentatives de traversée illégale meurtrière vers l'Espagne, indiquent des sources militaires marocaines. Lundi, les gardes-côtes marocains avaient annoncé avoir repêché 5 corps de migrants sénégalais et porté secours à 189 autres dont l'embarcation avait chaviré samedi au large de Guerguerat, localité du Sahara occidental. Au moins 13 migrants sénégalais ont péri à la mi-juillet dans le naufrage de leur pirogue au large des côtes marocaines, selon les autorités locales sénégalaises. Au Kenya, le gouvernement et l'opposition lancent à partir d'aujourd'hui des pourparlers pour tenter de résoudre une impasse politique après plusieurs manifestations meurtrières depuis mars contre le coût de la vie et les résultats de la dernière élection présidentielle. Le chef de l'opposition, Raila Odinga, a organisé 10 journées de manifestations entre mars et juillet, dont certaines ont été marquées par des affrontements meurtriers avec la police, mais qui ont parfois peu mobilisé pour exiger un audit des élections d'août 2022 ayant porté au pouvoir le président William Ruto.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président brésilien Lula a appelé mardi les pays amazoniens à mettre en place des mesures communes urgentes pour freiner la destruction de l'Amazonie, la plus grande forêt tropicale de la planète. C'était lors d'un sommet à Belém. Les précisions de Jacques Aristide.
Dans son discours d'ouverture, aux côtés d'autres chefs d'État sud-américains, Luiz Inácio Lula da Silva a souligné que la lutte contre la déforestation était fondamentale pour faire face à l'aggravation sévère des changements climatiques. Le sommet s'est ouvert le jour où le service européen Copernicus confirmait que le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Il n'a jamais été aussi urgent de reprendre et d'étendre notre coopération. Nous devons promouvoir une nouvelle vision de développement durable et inclusif dans la région en alliant préservation environnementale et création d'emplois, a-t-il déclaré après avoir décrit le sommet comme un tournant. La rencontre, qui se poursuit aujourd'hui, rassemble des représentants des 8 pays membres de l'Organisation du Traité de coopération amazonienne, créée en 1995, dans le but de préserver cette vaste région qui abrite environ 10% de la biodiversité mondiale. Le président Lula, dont le pays abrite 60% de la forêt amazonienne, est entouré à Belém de ses homologues de la Bolivie, de la Colombie et du Pérou, tandis que l'Équateur, le Guyana et le Suriname étaient représentés par des ministres.
Ici, aux États-Unis, Ron DeSantis, le principal rival de Donald Trump aux primaires républicaines de 2024, a limogé hier sa directrice de campagne. Il espère ainsi donner un nouveau souffle à sa campagne qui bat de l'aile face à celle de l'ancien président. Le point avec Lionel Gaïma.
Les changements dans l'équipe de campagne de Ron DeSantis ont été annoncés à quelques jours du premier débat des primaires républicaines le 23 août à Milwaukee. Le gouverneur de Floride est distancé par Donald Trump près de 40 points dans les sondages, selon l'agrégateur Real Clear Politics. Cerné par les enquêtes, M. Trump, 77 ans, s'est jeté à fond dans la course pour la Maison-Blanche, se posant victime d'une chasse aux sorcières menée par des démocrates. Il dit avoir levé plusieurs millions de dollars à chacune de ses inculpations qui font l'objet d'une attention médiatique particulière. Le vainqueur de ces primaires va affronter en novembre 2024 le candidat démocrate à la présidence, très probablement M. Joe Biden, âgé de 80 ans. Réélu triomphalement à la tête de la Floride en novembre 2022, Ron DeSantis, 45 ans, qui joue la carte de l'âge, espère séduire l'Amérique avec ses prises de position dures sur l'immigration, l'avortement et l'homosexualité. Sur le terrain, l'homme trapu et au sourire rare se voit souvent reprocher son manque de charisme.
À présent, la Minute Écho avec John Lindon.
Le Japon a signé mardi un accord avec la Namibie pour explorer les terres rares indispensables à la fabrication de technologies de la transition énergétique et d'appareils électroniques. Selon l'agence Ecofin, cet accord, dont les détails n'ont pas été divulgués, a été signé à marge de la visite du ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie à Namibie dans le cadre d'une tournée dans 5 pays africains, dont la RDC, la Zambie, l'Angola et Madagascar. L'avionneur américain Boeing a livré 309 avions depuis le début de l'année, dont 243 exemplaires de son avion vedette, le 737 MAX, ce qui correspond peu ou prou à la totalité des livraisons du groupe, tout modèle confondu, sur la même période de l'année précédente. Fin juillet 2023, le carnet de commandes de Boeing atteignait 5 588 avions. PayPal a lancé lundi la première crypto-monnaie dite stable déployée par une grande entreprise spécialiste des paiements en ligne. Il s'agit de la PayPal USD, une stablecoin qui est à parité avec le dollar et qui peut être utilisée dans des transactions en ligne, a indiqué le groupe californien dans un communiqué. C'était la Minute Éco avec John Lindon pour VO Afrique.
Maintenant, nous accueillons Yacouba Ouedraogo pour la page sport. Pour commencer, l'Afrique n'a plus de représentants au mondial féminin.
Oui, après le Nigeria et l'Afrique du Sud, c'était au tour du Maroc d'être stoppé en huitième de finale de ce mondial féminin. Les Lions de l'Atlas ont été impuissantes face à la France qui les a corrigés 4-0. Les Bleus ont assuré le coup en faisant la différence avant la demi-heure de jeu. 3 buts en 8 minutes de Diani à la 15e, Dali à la 20e et le sommaire à la 23e ont permis aux joueuses d'Hervé Renard de mener rapidement 3-0 et de profiter de la seconde période pour gérer. Et Génie Le Sommaire a enfoncé le clou d'une tête au second poteau à la 71e. Ce fut beaucoup plus serré entre la Colombie et la Jamaïque, mais les Colombiennes se sont qualifiées pour leur premier quart de finale d'une Coupe du Monde grâce à une victoire étriquée 1-0.
Yacouba, on connaît désormais toutes les affiches des quarts de finale de ce mondial féminin.
Samedi à Brisbane, devant 50 000 Australiens, la France fera face au pays co-organisateur du tournoi, l'Australie. Toujours samedi, l'Angleterre, champion d'Europe en titre, fait face à la Colombie, à Sydney. Bien avant, vendredi, l'Espagne joue contre les Pays-Bas à Wellington et le Japon défie la Suède à l'Eden Park d'Auckland.
Les Nigérianes réclament le paiement de leurs primes.
Éliminés hier par l'Angleterre, les Super Falcons ont attendu la fin de leur mondial pour reprendre la bataille qui les oppose à leurs dirigeants. Elles exigent que leur fédération honore ses engagements et leur paie les primes et dépenses impayées. C'est ce qui ressort d'un communiqué du syndicat des joueurs, la FIFPro. Après avoir menacé de boycotter le premier match de la Coupe du Monde le 21 juillet face au Canada, les joueuses nigérianes avaient accepté de mettre leurs revendications entre parenthèses pour se concentrer sur le tournoi. Certaines primes et indemnités de stage et des dépenses remontent à 2021. Le Nigeria a participé à toutes les Coupes du Monde féminines depuis l'édition inaugurale en 1991.
Pour terminer, Yacouba, Lauren James, désolée après sa lourde faute sur une joueuse nigériane.
L'attaquante britannique a présenté ses excuses pour la lourde faute commise sur la joueuse nigériane Michelle Alozier lors du 8e de finale qui lui a valu un carton rouge en fin de rencontre. Lauren James a exprimé sur Twitter, rebaptisé X, tout son amour et son respect pour sa concurrente sur laquelle elle avait volontairement marché pendant la rencontre remportée finalement par l'Angleterre au tir au but. « Je suis désolé de ce qui s'est passé », a poursuivi l'attaquante du Chelsea, qui sera au moins suspendue pour le quart de finale des Anglaises contre la Colombie avant une possible sanction de la FIFA. En parallèle, les Lionesses ont publié un communiqué dans lequel elles soutiennent que Lauren est vraiment désolée pour son geste et pleine de remords.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Nanit Talani, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les événements au Niger sont suivis partout dans la sous-région, y compris au Sénégal, l'un des rares pays épargnés par les coups d'État après deux putschs au Mali, deux autres au Burkina et un en Guinée. Pour beaucoup de Sénégalais, cette toute dernière prise de pouvoir par des militaires en Afrique de l'Ouest montre les limites de la CEDEAO, l'organisation sous-régionale qui a brandi la menace d'une intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les réactions à Dakar avec notre correspondant sur place, Sedina Abagueye.
Une intervention militaire de la CEDEAO au Niger serait une catastrophe pour l'Afrique de l'Ouest, c'est l'avis de Mansour Ndiaye. Pour lui, les interventions militaires antérieures de la CEDEAO n'ont pas été de franc succès, notamment en Sierra Leone et au Liberia.
Je pense que c'est une catastrophe pour tous les pays qui l'ont connu, hein. Notamment on peut voir dans plusieurs pays d'Afrique où la CEDEAO est intervenue à travers ses militaires. Je pense que c'est là qu'est partie une instabilité qui s'installe dans ces pays-là. Donc à mon avis, l'intervention de la CEDEAO est sans doute pas la chose la plus appropriée actuellement dans ce contexte.
Sadou Kan, un jeune manager d'entreprise, est du même avis. Pour lui, l'urgence n'est pas une intervention militaire, mais plutôt une profonde réflexion sur les causes de ces coups d'État répétitifs.
Et à côté des coups d'État militaires, je pense qu'il faut aussi condamner les coups d'État constitutionnels. Donc, raison pour laquelle je pense que personne ne peut être d'accord avec cette manière de faire. Mais je pense qu'il est temps aussi en Afrique, vu les coups d'État récurrents, de se poser les bonnes questions, d'identifier les causes et essayer de mettre en place des mesures préventives qui vont nous permettre d'éviter ce genre de situation.
Pour Charles, la CEDEAO a bien raison de faire valoir son autorité, car il y va de la stabilité de toute la région.
Dans la forme, je pense que la CEDEAO a raison, parce qu'il faudrait qu'il y ait une structure qui va au-delà des États, donc qui transcende les États et qui veille au respect du droit international pour que ceux qui doivent être aux bonnes places le soient. Après, ce qui pose problème dans l'attitude de la CEDEAO, c'est quoi? C'est la variabilité de leur réaction. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, par exemple, ils sont pas armés et on n'entend pas de bruit de bottes aux frontières. On les voit pas prêts à intervenir. Donc on se pose la question d'une suprapuissance qui serait derrière peut-être la CEDEAO et qui demanderait à celle-ci de réagir.
Certains Sénégalais estiment que la CEDEAO devrait éviter l'escalade et respecter la volonté du peuple nigérien. D'autres estiment que face à la situation actuelle dans la sous-région, les acteurs politiques et publics sénégalais doivent éviter d'embraser le pays. Seydina Bagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le Bénin, conformément à la décision prise par la CEDEAO contre la junte militaire au pouvoir au Niger, a décidé de fermer ses frontières terrestres avec ce pays. Une situation qui entraîne de nombreuses conséquences, aussi bien pour les voyageurs que pour les importateurs. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
À la frontière entre le Bénin et le Niger, les conséquences sont visibles. Des centaines de camions garés avec des conducteurs irrités, mécontents.
Par rapport à notre situation ici maintenant, c'est très grave. Parce que frontière bloquée et nous les chauffeurs, nous sommes ici comme l'esclave. Tout est difficile. Et les marchandises maintenant, nous, par rapport à nous, c'est conteneurs. Il y a d'autres, et là c'est bâches. Qu'ils ont. Bâches, là, il y a des riz, il y a des spaghettis. La pluie qui est en train de tomber maintenant, ça va gâter les marchandises.
Sincèrement, nous on est là à peu près 6 jours ici. Bon, pour manger, pour avoir l'eau même, c'est toute une difficulté.
Nous sommes là maintenant, la détention en train de nous frapper nos conteneurs. Donc ça aussi, c'est un problème encore.
Chez les voyageurs qui veulent se rendre à Niamey et qui sont bloqués au poste de contrôle juxtaposé à Malanville, une ville dans le nord du Bénin, la colère est à son comble. Amidou pensait faire un voyage rapide vers le Bénin et retourner dans son pays, mais se retrouve bloqué à la frontière.
Puis vendredi passé, on est ici. Bon, on ne sait rien ce qui se passe au niveau de le autorités de Bénin. Il n'y a personne qui vient nous dire ce qui se passe. On est là seulement, on vient de finir notre papier. Tout le Bénin contrôle, tout, on est fini. On est jusqu'au niveau de la frontière, au pont. Il nous a dit qu'ils n'ont pas nous donné autorisation de passer au Niger. Nous sommes partis voir les CV. On a fait expliquer que nous, on a fini avec le Bénin. Tous les papiers sont finis. Nous devrions rentrer dans notre pays. Ils ont refusé. Ils nous disaient que ça vient d'en haut et ils ont fermé la frontière. Sinon, on a fatigué. On a tout fini notre argent ici, là.
De son côté, Abdoulaye désapprouve les autorités béninoises qui n'ont pas donné de période de grâce aux voyageurs avant de fermer les frontières sous les injonctions de la CEDEAO.
Au lieu d'être un peu quelques temps, une semaine, trois jours comme ça, pour fermer la frontière. Celui qui est venu sur la route n'a pas rentré. On va fermer la frontière. Au lieu de faire ça, on n'a pas fait ça. Nous sommes venus en même temps, nous avons dit on a mis un embargo au Niger. C'est pas comme ça qu'on fait. Si vous voulez faire quelque chose, il faut donner un peu quelques jours, deux jours, trois jours pour les gens, pour que les gens n'auront pas de problème. Mais maintenant, on est là jusqu'à. Maintenant, ça fait une semaine ici.
La décision du Bénin de sanctionner le Niger fait aussi grand bruit dans le pays. Devant la polémique, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, a déclaré que la diplomatie devrait être la solution privilégiée au coup d'État au Niger, mais réaffirme le soutien total de Cotonou aux efforts de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest pour résoudre la crise.
Nous sommes et nous souscrivons entièrement aux actions diplomatiques qui sont en cours et qui restent la solution privilégiée par tous pour l'instant. Mais si demain, pour quelque raison que ce soit, quelque action que ferait la CEDEAO, le Bénin s'inscrirait entièrement en fait dans cette action en tant que membre de la CEDEAO. Nous croyons dans le fait que le pouvoir se transmet par les urnes et ne se situe pas au bout d'une baïonnette. Personne ne veut qu'on soit dans une situation en fait où la solution de l'usage de la force soit la solution qu'on retienne. On privilégie tous la négociation, on privilégie tous le dialogue en fait. Et c'est la raison pour laquelle les chefs d'État ont donné cette période d'une semaine pour pouvoir engager des discussions et aboutir à une solution concertée de libération et de réinstallation du président Bazoum.
La communauté nigérienne au Bénin appelle le gouvernement béninois à la réouverture des frontières et à trouver une autre façon de régler les contentieux politiques que de sanctionner les simples citoyens. De Cotonou, Ginette Fleur-Adonné pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
En République centrafricaine, les réactions affluent après la publication lundi des résultats provisoires du référendum du 30 juillet dernier par l'autorité nationale des élections. Si les défenseurs du projet de la nouvelle constitution saluent une victoire écrasante, le Bloc républicain pour la défense de la constitution et une partie de la société civile parlent d'un non-événement et de données erronées. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
Les réactions ont commencé à tomber juste après la publication de ces résultats où le oui l'a remporté avec 95,27% selon les résultats provisoires de l'autorité nationale des élections. Évariste Ngamana, premier vice-président de l'Assemblée nationale et directeur national de la campagne référendaire.
Nous accueillons avec fierté et sérénité les résultats qui viennent d'être donnés par l'autorité nationale des élections et nous sommes heureux de voir que le peuple centrafricain a opté massivement pour le projet de la nouvelle constitution.
Même réaction pour l'Union des forces démocratiques de l'opposition, UFDO, une plateforme de l'opposition qui soutient le projet de cette nouvelle constitution. Eddy Saint-Faurien Parikouti, un des membres.
C'est vraiment une très grande fierté pour moi, en tant qu'un opposant démocratique dans mon pays, en République centrafricaine, qui a pris part à cette révolution constitutionnelle qui va libérer notre pays de l'esclavagisme, de tout ce qu'on appelle les crises perpétuelles dans ce pays. C'est vraiment une très 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 grande fierté pour moi et la fierté du peuple centrafricain.
Alors que ces résultats font réjouir dans le camp du oui, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016 dénonce une mascarade. L'ancien Premier ministre Martin Zigele, son porte-parole, parle d'un non-événement.
L'ANE n'a fait que mettre un peu la forme à des résultats qui étaient déjà diffusés sur les réseaux sociaux partout par les organes du MCU. Donc ça confirme que ce projet de constitution n'est pas du tout une volonté du peuple, c'est une mascarade. En tout cas, c'est un acte grave qui confirme la volonté du président Touadéra, ne l'oubliez pas, de rester président à vie. Tout le reste, c'est du cinéma.
95,27% pour le oui contre 4,73% pour le non. Un résultat qui ne surprend pas, selon l'avocat Bruno Yacine Bieba, membre de l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture. Il s'interroge sur le taux de participation estimé à 61,10%.
Le 30 juillet, il n'y avait eu aucune mobilisation. Alors donc, dire qu'il y a eu 1 100 000 personnes qui ont voté et que maintenant, sur ce 1 100 000, il y a 95%, je conteste ce chiffre-là.
L'opinion nationale reste divisée sur ce référendum. Si de nombreux centrafricains accusent l'autorité nationale des élections d'être à la solde du pouvoir, l'institution en charge d'organisation des élections se félicite du travail abattu. Théophile Momokwama, porte-parole de l'ANE.
Ça, c'est une mauvaise blague. Vous vous souvenez que les mêmes critiques ont été élevées avec les élections de 2020-2021. Mais la plupart des gens qui font ces critiques-là sont élus avec ces élections-là. Ils siègent à l'Assemblée nationale. Ils ont une certaine notoriété politique par rapport à leur mandat électif dont les élections étaient organisées par la même ANE.
À compter du 7 août, date de publication de ces résultats provisoires, la Cour constitutionnelle a 15 jours pour rendre publics les résultats définitifs. Freeman Sipila, Bongui, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Gabon, un peu plus de 800 000 électeurs sont attendus aux urnes le 26 août prochain. Et la campagne pour la présidentielle s'ouvre vendredi. Pour ce scrutin, prévu le même jour que les législatives et les municipales, 18 candidats sont en lice, dont Ali Bongo Ondimba, le président sortant. Il brigue un troisième mandat dans un processus électoral déjà controversé. Les récentes modifications de la loi électorale par le Parlement suscitent la colère de l'opposition et de la société civile. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze.
Au siège de l'Union nationale à Libreville, la plateforme de l'opposition Alternance 2023 désapprouve l'idée d'un bulletin unique pour la présidentielle et les législatives. Cette proposition de l'organe en charge des élections accentue les critiques suscitées par la réforme du code électoral à quelques semaines des élections. François Ndongobian, président de la plateforme Alternance 2023.
Ce soi-disant bulletin unique n'est en rien comparable à celui proposé par l'opposition dont la vocation est de regrouper pour chaque type de scrutin tous les candidats en lice, comme il est d'usage dans les démocraties qui le pratiquent.
Si pour le CGE, cette réforme est une innovation devant permettre à l'État de faire des économies substantielles, mais pour Serge Abslo, candidat aux élections municipales à Libreville, l'absence de sensibilisation sur l'adoption du bulletin unique présente des risques d'un cafouillage contre-productif le jour du vote.
En dépit de ce qu'on veuille obliger les Gabonais à choisir un président par le truchement de leurs députés et vice-versa, ça pourrait tout à fait produire l'effet contraire que celui escompté par ceux qui sont à la manœuvre.
La réforme électorale querellée amplifie les inquiétudes des partisans du report des élections. Selon le Rassemblement pour le Gabon, il faut une transition politique pacifique pour éviter le chaos au soir du 26 août prochain. Laurent Nguemezui, président du Rassemblement pour le Gabon.
Nous prenons un temps au cours duquel nous tombons tous d'accord de dire, avant d'aller aux élections, arrangeons tout ce qui peut être source de division au sein du peuple.
Une transition politique comme moyen de prévention de la crise post-électorale, la démarche du RPG a du mal à convaincre la société civile gabonaise. Geoffroy Fumbula Libeka, acteur de la société civile.
Je pense simplement que ceux qui prônent la transition ou le boycott ne font qu'une chose, ils sont en train d'œuvrer de façon à ce que Ali Bongo puisse de nouveau passer avec le minimum de voix possible et en décourageant le maximum de Gabonais à aller au vote.
Les élections du 26 août promettent d'être un moment crucial dans la vie politique du Gabon. Les populations attendues aux urnes auront ainsi l'occasion de décider de l'avenir de leur nation en élisant leurs dirigeants pour les 5 prochaines années. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Nanit Talani, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, à la console, Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.